9% à 3863 points. À la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
L'arrivée du Quintet Plus à Vincennes pour gagner, il fallait jouer le 10, le 13, le 6, le 16 et le 12. 10, 13, 6, 16 et 12. Voilà, vous savez tout, Patrice Gélinet, c'est à vous. Je ne sais pas si vous avez gagné. 14h03.
Et non, hélas. Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, la Révolution française en chantant. Faire notre révolution en chantant est un moyen presque sûr de l'empêcher de finir par des chansons. Roussel, Chronique de Paris, octobre 1789. D'histoire. Tout le monde connaît au moins le refrain de la Marseillaise et chacun a fredonné une fois dans sa vie la Carmagnole ou le Saïra qui envoyait, on le sait, les aristocrates à la lanterne. Mais qui sait ce qu'est une Carmagnole? Qui a entendu parler des auteurs de ces chansons quand elles n'étaient pas anonymes et qui connaît le destin parfois étrange de ces refrains qui ont accompagné pendant 10 ans un des moments les plus importants de notre histoire. Dès le premier jour de la Révolution française, on chantait déjà dans les rues de Paris, mais pas à Versailles où Louis XVI, en se réveillant le 15 juillet 1789, entendait le duc de La Rochefoucauld-Liancourt lui annoncer une bien mauvaise nouvelle.
Sire. Sire.
Qu'y a-t-il ?
Sire, les Parisiens ont pris la Bastille.
Pris la Bastille ? Pourquoi ? C'est une révolte.
Non, sire. C'est une révolution.
Aussitôt que la Bastille à nos efforts se soumet, maintes filles de gentilles va danser sur le sommet.
D'un air gaillard
sur le pompon,
la jeune beauté
saute et frétille. Fillette qui dansez si haut, gardez-vous bien de quelques sauts,
car c'est l'enfant bien un donjon.
Car si l'on prend bien un donjon,
on prend encore mieux un tonjon.
On pense encore mieux à ton nom.
On pense encore mieux à ton nom.
Et c'était la prise de la Bastille, une chanson comme on en trouve beaucoup d'autres dans un livre qui vient de sortir chez Larousse, l'histoire de France en chanson depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Carla Derolle et Pierre Zarca, bonjour.
Non, j'excuse. Je vous... Saka.
Saka, pardon. Pourquoi j'ai dit Zarca?
Vous êtes très connu ici,
Pierre Saka, oui, parce qu'on vous connaît depuis l'oreille en coin. Alors, bon, j'ai fait un lapsus, vous m'intimidez, en fait. C'est ça le problème. Alors, Carla Derolle, vous êtes, vous, directeur éditorial chez Larousse. C'est vous, Pierre Saka, depuis...
Ça y est, il a bien dit.
Depuis l'Orient, quoi, vous avez fait beaucoup de choses. Notamment, vous êtes un des auteurs de ce livre sur les chansons de la Révolution. Enfin, sur les chansons en général. Nous allons traiter aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de chansons, des chansons de la Révolution française. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup chanté à cette époque. Je crois qu'il y a eu 3000 chansons entre 1789 et 1799. Donc, quelques-unes dont nous parlerons sont restées célèbres. Cela dit, les Français n'ont pas attendu la prise de la Bastille, hein, pour mettre leur histoire en chanson. La chanson politique, c'est une vieille tradition française, Pierre Saka.
Oui, et oui, Patrice. Et ça a commencé vraiment sur le Pont-Neuf, n'oublions pas les Mazarinades. Déjà, tous les jours, il y avait 2, 3, 4, 5, même peut-être des fois 10 et plus, des chansons qui traitaient de la politique, qui singeaient la reine, qui singeaient le ministre de la reine, qui était le favori, bien sûr, vous connaissez l'histoire. Eh bien, à cette époque, on écrivait une chanson tous les jours, on l'écrivait sur du papier, parce qu'il n'y avait pas l'imprimerie n'existait pas, et on la recopiait, et on la vendait. Et on vendait les chansons
sur le Pont-Neuf.
Alors, c'était évidemment une époque de censure. C'était une époque où les chansons se passaient sous le manteau. Comment peut-on expliquer, Karl Lederhosen, comment peut-on expliquer que au moment de la Révolution, parce que la censure, elle s'est arrêtée au début du règne de Louis XVI. Alors après, ça se multiplie. Mais alors, ça va exploser à l'époque de la Révolution française. Comment expliquer 3000 chansons en 10 ans, c'est-à-dire pratiquement une chanson par jour? Pourquoi cette époque révolutionnaire a tant inspiré les chansonniers, les paroliers?
Je pense que c'est en partie d'abord par le fait que il y a eu une plus grande liberté encore, ça c'est sûr, mais surtout parce que le pouvoir a repris à son compte la diffusion des chansons, c'est-à-dire qu'il y a un projet révolutionnaire par rapport à la chanson. Elle entre, la chanson devient vraiment un projet pédagogique, parce que à cette époque-là, je dirais que peu de gens savent lire, il y a surtout l'oral qui fonctionne, et donc à partir de là, la chanson devient un moyen très simple et très rapide d'apprendre aux gens les nouveaux principes révolutionnaires.
Et d'autant plus que j'étais surpris en vous lisant d'apprendre que, au fond, toutes les paroles de ces chansons dont nous allons parler justement, bon, elles sont originales, elles datent de la Révolution, mais les airs, en revanche, étaient des airs déjà très connus, en fait. Pourquoi? C'était parce que on voulait, au fond, tout de suite qu'elles soient populaires, qu'elles soient chantées.
Non, c'est parce que l'écriture n'existait pas. L'écriture musicale n'existait pas. On ne savait pas noter. Alors, ce n'est que à partir d'une certaine époque que on pouvait lire la musique, et quelques personnes qui étaient quand même beaucoup plus en avance, si on peut dire, qui jouaient du piano, pouvaient déchiffrer les partitions et chanter les airs. Mais ce qu'il y a, c'est que les compositeurs n'existaient pas comme aujourd'hui. Alors, on prenait des vieux airs et on appelait ça des timbres. Ça n'existait pas, la musique, à cette époque-là, les chansons. On appelait ça des timbres. C'était des airs qui existaient depuis des siècles. Et sur ces airs, qui étaient connus du public parce qu'ils avaient été transmis oralement, comme vient de le dire Karl, oralement, sur ces airs-là, on mettait de nouvelles paroles. Voilà pourquoi.
Et c'est le cas d'une des premières et des plus célèbres chansons de la Révolution, chantée sur l'air, je crois, du Carillon National.
En effet, oui,
dont tout le monde a oublié les paroles, oui. Alors que tout le monde connaît celle du « Ça ira, ça ira » que les Français ont chanté à gorge déployée pour le premier anniversaire de la Bastille, quand Lafayette, à l'époque très populaire, prêtait serment à la Constitution le jour de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790.
Mon cher Robespierre, voilà le héros de la Révolution qui passe.
Mais pour combien de temps, mon cher?
Je jure d'être à jamais fidèle à la nation, à la loi et au roi.
Jadis acquia l'aristocratie dit mea culpa. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Le clergé regrette le bien qu'il a. Par justice, la nation l'aura. Par le prudent, la faillette, tout trouble s'apaisera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, malgré les mutins, tout réussira.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les amis sont à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les amis sont à la lanterne.
Et c'était la première version du célèbre « Ça ira » composée en 1790, juste avant la fête de la Fédération. Alors avant la Marseillaise, qui viendra plus tard, avant la Carmagnole, avant le chant du départ, c'était la première des grandes chansons à succès de la Révolution. Qu'est-ce qui fait le succès d'une chanson à cette époque?
Si je puis me permettre,
Pierre Sacca, oui.
Pierre. Il y a une anecdote qui circule justement, c'est que au début, c'était les paroles que vous avez chantées au début. Et puis, c'était le matin, il faisait beau, mais dans la journée, il a plu, et les aristocrates à la lanterne sont des paroles qui ont paru et qui ont été chantées qu'à la fin, après l'averse. Mmh. Voilà.
On dit d'ailleurs que le nom de Ça ira, c'était le compositeur, non, l'auteur, on en parlera dans une seconde, mais c'était une phrase favorite de Benjamin Franklin qui était à Paris, il disait toujours Ça ira, Ça ira.
C'est
à ce moment-là que l'auteur a trouvé les paroles. Le succès, donc, Karl Lederhosen, d'une chanson par rapport à d'autres, il y en a eu 3000, je le rappelle.
Je pense que c'est d'abord le fait qu'elle corresponde exactement au message que les gens ont envie d'entendre. Le Ça ira est... justement intervient un moment de la fête de la fédération, il y a une espèce d'unanimité momentanée,
oui,
mais
parce que
très forte.
On dit les aristocrates à la lanterne, mais n'empêche qu'on célèbre un aristocrate qui est Lafayette.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, là, je voudrais juste revenir sur un petit point de détail, c'est que les aristocrates à la lanterne, en fait, c'est un couplet qui a été ajouté un petit peu plus tard, c'est-à-dire qui date plutôt de 92, et qui correspond à un durcissement. Effectivement, une des raisons d'ailleurs du succès du Saïra, c'est que ça, ces paroles ont pu évoluer avec le temps, justement grâce à ce système du timbre et donc d'un air connu, et assez facilement on a pu glisser, et cette chanson est devenue de plus en plus radicale, et donc justement les aristocrates à l'antenne, il y a même, si je puis me permettre une dernière remarque, il y a un quatrain qui se termine par « Quand on les aura tous pendus, on leur mettra la pelle au cul ». Vous voyez, je veux dire,
c'est... elles sont à géométrie variable en fonction des événements.
Voilà. Oui, quand je dis l'inverse, je voulais dire, c'était plutôt une image. Hein,
alors,
mais en fait, c'était ça.
Voilà une chanson qu'on connaît encore aujourd'hui, deux siècles après, et dont vraiment très peu de gens, à part vous bien sûr, connaissent l'auteur qui s'appelait Ladré, qui était un grand auteur de chansons révolutionnaires. Je crois qu'il en a composé une cinquantaine.
Oui, mais j'étais surtout un soldat au départ.
Oui.
Alors,
mais
donc,
ce Ladré, deux mots sur lui.
Il était d'une famille de saltimbanques, si on peut dire. Le père écrivait des chansons. Déjà dans la famille, c'était plutôt une famille de saltimbanques. Mais le fils, lui, Ladré, celui qui a écrit Saïra, il était soldat. Et c'est au moment où sont arrivés ces événements qu'il s'est mis, comme son papa, comme la famille, à écrire des chansons. Voilà.
Et très opportuniste. Hein. Donc on gomme le nom de Lafayette en 92 quand il n'est plus en odeur de sainteté. Ensuite, il est rallié à Robespierre, il approuve l'arrestation de Louis XVI, et même sa mort. Hein, il écrit dans une chanson « Pour avoir une tête, pour être couronné, étant faible et trop bête, il fut guillotiné ». Et puis alors, quand le 9 Thermidor arrive, quand Robespierre et les montagnards sont balayés, voilà notre Ladré, ultra-révolutionnaire, qui devient plutôt réactionnaire et qui écrit une autre chanson, puisqu'on a reconnu leur crime, « Crions à bas les montagnards, la montagne a fait la culbute, n'écoutons plus les montagnards ». Il était vraiment... toujours dans l'air du temps.
Mais
même
écoutez,
si le temps changeait.
Patrice, c'est toutes les époques qui sont comme ça. Elles se ressemblent toutes parce que si vous réfléchissez un peu à une époque qui nous est beaucoup plus rapprochée, sous l'occupation, vous aviez les gens qui criaient vive les Allemands, et puis quand De Gaulle est arrivé, ils ont crié vive De Gaulle. Oui. Et bien là-bas, c'était à cette époque-là, sous la Révolution, c'est la même chose.
Un certain Maurice Chevalier qui était expert en.
Mais quand c'était la royauté, c'était la royauté, puis quand c'était les révolutionnaires, les sans-culottes, c'était les sans-culottes.
Alors les chansons, on le voit, évolue avec la Révolution jusqu'en 1792, elles sont plutôt politiques. Mais alors, lorsqu'en avril 1792, la guerre est déclarée à l'empereur d'Autriche, alors là, elles changent, elles deviennent des chansons beaucoup plus patriotiques, servent à galvaniser les soldats. Ce fut le cas, bien sûr, d'un chant composé à Strasbourg, quatre jours après la déclaration de guerre, par un obscur officier du génie qui ne savait pas, bien sûr, quel serait le destin de sa chanson, qui s'appelait alors le chant de guerre pour l'armée du Rhin, mais c'est plutôt près du Rhône qu'elle deviendra célèbre sous un autre nom.
Avance. Cette chanson de Mireur, d'où elle vient? Il l'a entendu chanter par une chorale d'ouvriers à Montpellier. Eux-mêmes l'appelaient d'un colporteur juif qu'il avait entendu à Strasbourg. On appelle ça le chant de guerre de l'armée du Rhin. Mais qui est-ce qui l'a fait? Les soldats de l'armée du Rhin ou le colporteur juif? Non, c'est un nommé des îles ou de l'île, je crois. Enfin, c'est un officier du génie. Ce chant m'a bouleversé, tu vois. C'est comme... l'écho de mes propres pensées.
Oh, je ne sais pas ce que vous y trouvez là-dedans. Pour moi, c'est un engouement passager, et dans 15 jours, tout le monde l'aura oublié.
Oh,
après cette Marseillaise, on a entendu avant plutôt un extrait du film de Jean Renoir, La Marseillaise, que personne ne risque d'oublier aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle est passée de Strasbourg, où elle était composée par Rouget de Lille, à Marseille, puis à Paris? Il y a un auditeur, je vais quand même intervenir, il y a un auditeur qui nous a écrit, hein, parce qu'ils nous écoutent, ils savent que j'avais annoncé cette émission pour aujourd'hui, c'est Gérard Nadal qui nous dit « Elle fut apprise aux soldats marseillais qui se rendaient à Paris pour la fête de la Fédération par François Mireur d'Escragnol, qui mourut général en Égypte avec Bonaparte. »
Non, voilà la véritable histoire, c'est le maire de Strasbourg qui décide de faire un hymne qui n'existait pas, puisque c'était la Révolution, c'était un hymne royaliste, et il voulait un hymne révolutionnaire. Et il cherchait partout quelqu'un qui puisse l'écrire. Et il y avait un jeune chansonnier à Strasbourg qui était connu dans les cabarets et qui chantait ses chansons, Rouget de Lille. Et quelqu'un a dit, mais pourquoi on ne lui demande pas? Alors on lui a demandé, il était très honoré d'écrire une telle chanson pour le maire de Strasbourg, et il a écrit. Et un soir, il l'a présenté devant une assemblée qui a trouvé la chanson formidable.
Le maire de Strasbourg qui a été guillotiné après.
Et alors, c'est un colporteur, il a raison. Alors, non, il y a de la vérité dans l'histoire que vous avez racontée, parce qu'en effet, c'est un colporteur, car à l'époque, c'était comme ça que les choses étaient transmises. Il n'y avait pas, évidemment, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas...
En quelques semaines.
Ah oui, mais les colporteurs, ils allaient vite. Il y avait des diligences, et puis... Bon. Et ils avaient rapporté donc cette chanson, mais sans savoir ce qu'ils en transportaient beaucoup. Et là, on formait un bataillon pour renforcer à Paris les armées. Et c'est.
Ça, on avait décrété la bataille en danger.
Alors, ils avaient fait donc une conscription de soldats à Marseille. Et le commandant du bataillon, en quelque sorte, a dit, mais vous êtes fous, comment on va faire monter tous ces gens-là à Paris? Ben oui, mais vous rendez compte, ça fait presque 800 kilomètres, et alors, ben, il faudrait quelque chose pour les entraîner. Ah, là, il y a un qui dit, ah ben tenez, il y a un mec qui m'a apporté une chanson qui fait Allons enfants de la patrie. Et c'est comme ça, c'est parti comme ça. Et alors pendant toute la route, ils ont chanté la chanson. Et en chantant la chanson toute la route jusqu'à Paris, arrivé à Paris, ça s'appelait plus le chant du Rhin, ça s'appelait la Marseillaise, parce que c'était les Marseillais qui l'avaient chanté.
Alors les Marseillais n'ont pas amené que la Marseillaise, hein, dont le destin sera extraordinaire. Elle ne deviendra hymne national, elle deviendra en 1795, puis ce sera ensuite supprimé. Bon, elle sera même interdite sous la Restauration, et elle ne deviendra hymne national en France qu'en 1879, beaucoup plus tard. Mais alors elle avait au moins le mérite d'être signée, les paroles et la musique de Rouget de Lille. La plupart des chansons, en fait, étaient plutôt anonymes, Carla Derolde.
Tout à fait, oui. Elles ont été anonymes d'abord parce que très vite, la répression s'est abattue et donc il a fallu écrire ces chansons de manière anonyme, et puis aussi parce que ça a été quand même une période de formidable création spontanée, populaire, et donc on a très peu gardé de noms. La plupart de ces chansons sont effectivement restées anonymes.
Anonymes, mais célèbres, parce que justement on dit que la plus populaire d'entre elles venait du peuple. On ne sait jamais, on n'a jamais su qui l'avait écrite. Elle avait été aussi amenée à Paris par les Marseillais, en même temps que la Marseillaise, la chanson des sans-culottes, ceux qui avaient renversé la monarchie en envahissant les Tuileries en août 1792, avant de faire guillotiner Louis XVI, et c'est leur chanson que l'on écoute.
Monsieur Veto avait promis,
Monsieur Veto avait promis,
d'être fidèle à son pays,
d'être fidèle à son pays,
mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier.
Dansons la Carmagnole, vive le son.
Oui, je suis sans culotte, moi.
Oui, je suis sans culotte, moi.
En dépit des amis du roi.
En dépit des amis du roi.
Vive les Marseillais, les Bretons et nos lois.
Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Oui, nous nous souviendrons toujours.
Oui, nous nous souviendrons.
Des sans-culottes des faubourgs,
des sans-culottes des faubourgs,
à leur santé buvons, vive ces francs-lurons.
Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Alors voilà. là une chanson universellement connue, bien sûr, mais alors beaucoup plus que son auteur, évidemment, puisque c'est un auteur anonyme, et même d'ailleurs que, je l'ai appris en vous lisant, ce qu'est une carmagnole, moi je crois que c'était une danse, Carla de Rolde.
Non, en fait, c'est une veste à courte basque et à col large, donc qui vient du Piémont. Donc l'origine.
C'était une ville du Piémont qui s'appelait Carmagnola.
Voilà, exactement. Donc ça c'est l'origine. Après, ce qu'on ne sait pas très bien aujourd'hui, c'est comment c'est devenu le nom de cette chanson. Pourquoi ce nom a été choisi. Mais ce qui est intéressant avec la Carmagnole, c'est qu'en fait, si ce chant n'est pas devenu par rapport à la Marseillaise un hymne officiel de la Révolution, c'est parce qu'il gommait effectivement la dimension donc, que vous soulignez tout à l'heure de patrie. Donc,
oui. Là, parce que là c'est plus tellement consensuel. Là, on s'en prend au roi, puis en plus, ça va se démoder très vite. Ça n'a plus beaucoup de sens, même si aujourd'hui, on la connaît, on la chante encore. Hein, on s'en prend au roi, monsieur Veto, madame Veto. C'est le moment où ils sont envoyés au temple avant d'être jugés, avant d'être condamnés à mort et guillotinés. D'ailleurs, on a aussi, là, c'était très circonstanciel, il y a même une chanson sur les guillotines. On n'a pas le temps de toutes les passer.
Oui, il y a une chanson qui s'appelle La Guillotine, oui. Oui. Mais pour rajouter juste un mot, la Marseillaise, vous dites, on ne savait pas, parce qu'à l'époque, les succès, comme encore aujourd'hui, on les connaît beaucoup plus, on connaît beaucoup plus les auteurs parce que c'est un succès. Mais si la chanson n'a pas de succès, on connaît beaucoup moins le nom de l'auteur. Mmh. C'est tout, c'est l'explication de la Marseillaise. Mmh. On a su vraiment que c'était Rouget de Lisle, que quand ça a été vraiment un succès, parce que c'était une chanson meilleure. D'ailleurs, je vais rajouter que la Marseillaise est une pâle copie de beaucoup de chansons du même genre.
On dit même, d'ailleurs, que dans la Marseillaise, il y a un petit air qu'on entend, en fait, dans un concerto de Mozart.
Absolument.
Hein, donc, oui,
ça,
un peu chez Mozart.
Il n'y a plus que cette note dans la musique.
C'est le numéro 25, hein, pour les amateurs, s'ils en cherchent. Alors, tout le monde chantait pendant la Révolution, Pierre Sacca, mais il y avait aussi, bien sûr, puisque c'était un peu, en partie, à un moment donné, une guerre civile, on chantait aussi chez les monarchistes, chez les royalistes. Il y avait même un célèbre auteur qui s'appelait Ange Pitou.
Absolument. Ange Pitou, lui, alors il faisait mieux. C'était un journaliste, en plus. Il était auteur de chansons. Et alors, lui, il allait dans les rues, il montait sur une petite estrade, il s'accompagnait à la guitare et chantait ses chansons, qui étaient anti-révolutionnaires. Absolument, mais là, à 100%, tout le monde s'attroupait, personne ne lui disait rien. C'était une époque tellement troublée que vraiment, il n'y avait pas, si vous voulez, une police qui était diligentée par les montagnards ou par Danton, et personne n'osait l'arrêter, et ainsi, il a fait de la prison, il a même été déporté en Guyane.
Chanson sur les patentes, sur les concessions.
Sur les patentes, il y avait déjà un peu de censure, la censure, elle viendra plus tard. En tout cas, ces royalistes, c'est pas Ange Pitou qui l'a écrite, mais ces royalistes détournaient aussi les chansons révolutionnaires, comme cette Marseillaise royaliste.
L'étendard sanglant est levé, et dans la mer, l'orchestre en bas, les cris impurés sont les bras, révenant jusque dans vos bras, contre vos frayes et vos larmes, aux armes battelins, formez vos bataillons, marchez, marchez, le sang des bleus rougira vos rayons.
Et c'était une Marseillaise royaliste du temps de la chouannerie. C'est peut-être pour ça qu'on entend des coups de feu.
Le sang des bleus.
Et il y avait des détournements. Par exemple, j'ai appris aussi que Veillons au salut de l'Empire. Ça date de bien avant l'Empire et que c'est plus tard.
Plus tard.
L'Empire, c'était en fait la nation dans
la nation,
du chanteur. C'est une chanson très célèbre à l'époque et ensuite c'est Napoléon qui en a fait la chanson officielle de l'Empire. Alors ça, il y a des destins extraordinaires. Il y a eu censure, il y a eu interdiction. Pendant toute la Restauration, évidemment, on ne pouvait plus entendre la Marseillaise que dans les endroits discrets. Oui. Et puis elle réapparaîtra. Mais entre-temps, ces chansons, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que leur audience était considérable pendant la Révolution et elle a très largement dépassé les frontières. Il y a évidemment la Marseillaise, hein, qu'on a chantée dans toutes les révolutions. Lénine accueillie à Saint-Pétersbourg au son de la Marseillaise.
Mais oui, bah oui, c'est le succès, ça. C'est le tube.
Ouais. Et puis alors, il y en a une dont j'aimerais qu'on parle, parce que c'était peut-être une des plus belles, à mon avis, c'est le chant du départ.
Pierre Sacca, mais alors là, à ce moment-là, ce sont des professionnels, hein.
Attention, c'est Méhul pour la musique.
C'est Méhul, attention.
Chénier pour les paroles.
C'est des paroles magnifiques.
Oui.
Oui, c'est un peu différent parce
c'est
que
différent,
c'est une
là.
Commande pour un hymne guerrier. C'est-à-dire qu'on a vraiment le besoin pour cette campagne qui commence mal en juin 94 au nord de la France, d'une chanson qui va motiver les soldats. Et donc là, c'est une commande. On sort déjà presque, j'allais dire, de la spontanéité.
Oui, il y en avait déjà des commandes. En fait, on commande parce que effectivement, on sent bien que ces chansons, elles sont porteuses, elles encouragent le soldat, elles encouragent le sans-culotte. C'est pour ça au fond qu'on les commande aussi.
On les commande, mais elles n'ont pas.
Vous disiez que le maire de Strasbourg avait bien commandé la Marseillaise.
Ça n'a pas été fait dans le même climat, ça pas avec les mêmes intentions, c'est différent. Ah oui, il y a une différence.
Oui, d'ailleurs, c'est étonnant. Je veux dire, le chant du départ est quand même un chant extrêmement, à l'origine, patriotique. Il n'a pas du tout la dimension qu'il y a encore dans la Marseillaise, quand même, de défense des acquis de la Révolution. C'est vraiment un chant guerrier. C'est pour ça, peut-être aussi, qu'il a eu plus de mal, je dirais, à s'imposer. Il n'est pas devenu un hymne officiel comme la Marseillaise.
Il y a moins d'émotion, si vous voulez.
Ah mais il est beau, hein. Il faut rappeler que c'est Marie-Joseph Chénier, dont le frère était royaliste, hein, c'est pas le même.
Oui, mais d'abord, je vous dis, il n'y a pas l'émotion, ça n'a pas été créé dans le même climat. Et vous savez que c'est très important, ça. Très important.
Et je partage pas votre point de vue. Moi, je trouve très belle, mais, parce que nous verrons dans une seconde que, elle a été chantée à l'étranger. Comment expliquer ce succès extraordinaire que la Marseillaise puisse être chantée dans toutes les langues? Elle était sur la place Tiananmen en 89.
Écoutez,
aussi.
Alors là, c'est une chose qu'on ne peut pas discuter parce que, pourquoi le petit vin blanc a été un succès? Il n'y avait plus de raison que ça soit un succès qu'une autre chanson qui avait été chantée à la même époque. C'est inexplicable. Le tube, ce qu'on appelle dans notre métier la chanson, le tube, on ne sait pas pourquoi. Hein, Shabadabada, Shabadabada. Eh bien, j'aime mieux vous dire, vous n'auriez pas mis un sou sur Shabadabada. Et ça a rapporté des milliards.
Merci, Karl Averold et Pierre Sacca. On se quitte justement avec cette version russe du chant du départ, qui nous servira de générique de fin, chanté par le chœur de l'armée rouge sous la direction de Boris Alexandrov. Je rappelle que Pierre Sacca, qui était un de mes invités aujourd'hui avec Karl Averold, Pierre Sacca vient de diriger avec Jean-Pierre Sacca l'histoire de France en chanson, un beau livre publié aux éditions Larousse, et qu'il est également l'auteur de la grande anthologie de la chanson française, parue aux éditions du Livre de Poche. À lire également un livre très complet, La mémoire de la chanson, 100 chansons du Moyen-Âge à 1919, un livre de Martin Pennet, publié aux éditions Omnibus. Vous avez pu entendre des extraits des films La Marseillaise de Jean Renoir et La Révolution française des années Lumière de Robert Henrico. Vous pouvez retrouver ces références, vous le savez, en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en temps plein touche 1, 34.